On va ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans Titre 3, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Titre 3, 1 à 7. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant nous-mêmes les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de l'espérance de la vie éternelle.
Comment est-ce que notre Église peut changer notre ville, peut changer notre monde? Voilà l'argument de l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit dans l'épître de Tite. Tite a été envoyé à Crète pour mettre en ordre l'Église là, puis Paul écrit à Tite pour lui donner des conseils pour le travail qu'il a à faire. Puis on peut le poser les questions pour notre propre Église et pour nos vies. Comment pouvons-nous changer notre société, changer notre ville? Je prends deux exemples de l'histoire qui me touchent. Je pense par exemple à Richard Baxter qui a écrit un de mes livres préférés. Certaines personnes ici ont reçu un cadeau de ce livre de ma part à travers les années. Richard Baxter qui a écrit un livre qui s'appelle « Le pasteur réformé ». Intéressant qu'il a été appelé pour être un conférencier pour un groupe d'ouvriers. Il n'a pas pu aller, il était malade. Il a donc écrit ces quelques 10 sermons qu'il voulait adresser à ce groupe d'hommes. Et il l'a envoyé par écrit et dans la souveraineté de Dieu, dans une époque où il n'y avait pas de machine à enregistrer, ni d'iPod, ni de je ne sais pas quoi, comme nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit a conservé pour nous, Dieu a conservé pour nous, non pas inspiré, mais intéressante les remarques de cet homme. Il a vécu entre 1616 et 1691. On nous dit que lorsqu'il est allé dans la ville de Kidderminster en Angleterre, que la ville était caractérisée par le désordre, ivronnerie, prostitution, puis le gambling, violence et meurtre. Baxter nous dit qu'il marchait dans les rues de cette ville et il avait de la peine de trouver sur chaque rue une famille qui suivait Dieu. Sur les quelques quarantaines de ministères qu'il a exercé dans cette ville, interrompus par une guerre civile, interrompus par des difficultés parce qu'il a refusé de respecter l'Église officielle, dans cette ville-là, quel immense changement! On nous dit qu'à la fin de son ministère, on marchait dans les rues de cette ville-là, puis on avait de la peine à trouver une seule maison où toute la famille ne suivait pas Dieu. Tellement ça a changé. On nous dit qu'on ne trouvait plus de prostituées, plus de maisons de gambling, qu'on passait des années sans avoir un meurtre ni un vol, que les agents de la force de l'ordre ont été mis à pied parce qu'on n'avait plus besoin d'eux. Ce qui est encore plus frappant, c'est que presque 100 ans plus tard, George Whitefield a visité cette ville. puis c'était pas encore changé. Que les changements dans les cœurs et les vies des personnes dans cette ville-là ont duré plus que 100 ans. Je convoite, je soupire que nous ayons un tel effet sur la ville Trois-Rivières. L'Angleterre, sur Wesley Whitfield, vous savez que la France a connu toute une révolution. Révolution terrible qui a coûté tellement de vies, qui a ruiné la France. L'Angleterre a été exemptée de cela. Et je pense qu'on peut être d'accord que le ministère de John Wesley et Whitfield, dans les années 1700, ils ont tellement évangélisé l'Angleterre qu'elle a changé tout le pays. On peut avoir un impact sur notre ville. Vous savez que l'église de Crète était nouvellement implantée. Et la préoccupation de Paul était que la conduite des croyants serve d'exemple de la grâce de Dieu à leurs voisins païens. Et l'essentiel du livre du Tite se résume en deux thèmes. D'abord, on doit faire de bonnes œuvres et surtout au bénéfice des autres. Et on peut résumer l'argument de Paul dans les trois chapitres de Tite comme ceci. Dans le chapitre premier, nous avons une leadership authentique. Dans le chapitre 2, nous avons un comportement authentique à l'intérieur de l'Église. Et dans le chapitre 3, c'est les relations authentiques à l'extérieur de l'Église. Dans le chapitre 1, ça nous parle des leaders pieux. Parce que dispenser l'instruction sans démontrer de la sainteté, cela ne marche pas. Paul est en train de dire que si vous avez une église locale qui change la vie de sa ville, ça va commencer par les leaders. Puis on vit dans un monde où, dans l'église populaire, nous avons ce terrible problème d'abus sexuels des enfants. Dans l'église anglicaine aux États-Unis épiscopale, nous avons l'homosexualité qui est rendue acceptable et courante dans le leadership, même parmi les pasteurs, les évêques, les archevêques. Et des télé-évangélistes avec des vies, moi j'appelle ça des vies de poubelle. Vous cherchez une église locale, le style de musique, les programmes, c'est tout beau ça. Mais cherchez une église où vous avez des leaders qui sont des hommes de Dieu. Ça, c'est la priorité de Paul ici. Puis il ne parle pas de grands prédicateurs, Paul, puis il ne parle pas d'hommes publics magnifiques, il parle du caractère. Deuxièmement, des relations pieuses à l'intérieur de l'église. Dans l'église, à l'intérieur de l'église, ceux qui voient de l'église doivent voir des personnes qui s'aiment vraiment, qui se parlent comme faux et qui se traitent comme faux. Rien de pire que des églises locales qui ont la réputation d'être une big gang de personnes qui se chicanent entre eux autres. Puis troisièmement, mais ces relations, interactions pieuses à l'intérieur de notre société. L'Église est appelée à démontrer des relations saines et normales dans une culture où on ne croit plus que ce genre de relations puisse exister. Et nous devons rejeter cet aspect de notre culture qui est alimenté par un individualisme radical, parce que c'est ça qui nous caractérise aujourd'hui dans notre société, un individualisme radical. On doit rejeter cette recherche avec égoïsme, son propre bien aux dépenses des autres. Il faut prouver que de profondes et loyales amitiés sont possibles entre des personnes totalement différentes de nous, quant à leur race, puis leur culture, puis leur situation économique. En d'autres mots, il faut être un modèle de l'unité pour laquelle Christ a prié. Et c'est justement sur ces points que nous devons être très différents du monde. Voici notre introduction au livre de Tite. Dans le chapitre 3, nous avons trois choses. Trois appels à des relations authentiques. D'abord, notre comportement envers les autorités civiles, dans le verset 1er, que Jean Paul a lu pour nous. Dans le verset 2, nous avons notre comportement envers tous. Et dans le verset 3 à 7, nous avons la fondation et la puissance pour un tel comportement. Et nous commençons donc avec notre comportement envers les autorités civiles. Et c'est notre frère René qui va nous apporter cet enseignement dans les 25 minutes qui vont suivre. On a-tu commencé en retard ce matin? Je ne sais pas. Allez-y, René.
Bon matin. Alors, comportement envers les autorités civiles. Comment qu'on doit se comporter? Vous savez, on vit dans une société que les lois, il y a beaucoup de gens que les lois que les gouvernements imposent ne respectent pas trop ça. Même, je vous confesse qu'avant de connaître le Seigneur, je faisais des choses qui n'étaient pas légales. On vit dans une société comme ça. Pensez aux millions qui ont été investis juste pour la sécurité. On est presque au milliard même. C'est incroyable. Juste contre les manifestants qui, eux, s'opposent aux autorités. Pensez à la Coupe Stanley, lorsque nos glorieux gagnent. Puis là, de ce temps-ci, ils ont juste besoin de gagner une série, puis c'est la panique à bord. Les gens qui sortent dans les rues, qui saccagent, qui mettent le feu, qui... C'est incroyable. Fait fi complètement des autorités, s'en foutent carrément. Travail au noir. Vous en connaissez sûrement des gens qui travaillent au noir, qui ne veulent pas payer de taxes. C'est contre les autorités, c'est contre les lois. Tantôt, Doug nous en a parlé pour les résidents de l'île de Crète, parce que Tite s'adresse aux chrétiens à l'île de Crète. Il y avait une réputation, eux aussi. Il y avait une réputation. Les résidents de Crète considèrent le métier de voleur honorable. C'est intéressant. Ils avaient un amour de l'argent et du profit tellement fort qu'aucune source de profit n'était déshonorante. Peu importe de la façon qu'ils faisaient de l'argent, qu'ils gagnaient de l'argent, qu'ils faisaient du profit, que ça soit croche, pas croche, c'était pas grave. Épiménide, connaissez-vous personnellement Épiménide? Moi, je ne le connais pas. Un historien grec qui était natif de l'île de Crète dit de son propre peuple que c'était des menteurs, des méchantes bêtes puis des paresseux. Il était bien reconnu que dans l'Empire romain, les gens de Crète n'étaient pas contents et choqués d'être sous le joug des Romains. Savez-vous quoi? Ça nous ressemble un peu, ça. Il me semble qu'on se voit un peu là-dedans. Menteur, paresseux. On n'est pas tout le temps content d'être sur l'autorité, peu importe le parti dans nos gouvernements, que ce soit libéral, peu importe. Des fois, on est choqué, on n'est pas content. C'est pour dire, hein, plus de 2000 ans, puis aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Leur attitude n'était pas bonne face aux autorités. Leur attitude n'était vraiment pas bonne, comme ici dans notre société qu'on vit présentement. Mais comment qu'elle devrait être notre attitude? Ce serait quoi? Comment qu'on devrait être devant les autorités? Puis c'est dans ce contexte-là que Tite voulait instruire les chrétiens, en leur montrant comment ils devaient réagir dans une société païenne. Deux instructions concernant notre attitude face aux autorités. La première, on le voit dans notre texte. Verset 1. Être soumis aux magistrats et aux autorités et être prêt à toute bonne œuvre. On va regarder le premier. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir. Tournez dans Romains, s'il vous plaît. Romains 13. Romains chapitre 13. Tout le monde est là? Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. On arrête là. Que toute personne, même les chrétiens, on doit être soumis aux autorités. Puis, peu importe que ce soit un gouvernement dictateur, communiste, démocratique, peu importe, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, que ce soit Churchill, que ce soit César, Hérode, que ce soit Clinton, peu importe, on doit se soumettre aux autorités. C'est ce que la parole nous dit. Puis Romains, Paul nous donne dans notre texte là, de Romains 13, nous donne 7 raisons pourquoi on doit être soumis aux autorités. On va les regarder rapidement. Premièrement, les autorités sont instituées par Dieu. On l'a dans notre texte. Regardez, verset 1, deuxième partie. « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Wow! Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est intéressant. Les autorités humaines viennent de Dieu. Puis si c'est Dieu qui les a instituées, il faut se soumettre. Raison numéro 2. Résister aux autorités, c'est résister à Dieu. On l'a dans notre verset, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Si on s'oppose, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce que les enfants étaient un peu plus jeunes. Puis les enfants désobéissaient. Ça arrivait des fois, là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais ça arrivait des fois qu'ils désobéissaient. Là, on le mentionnait. C'est la parole dit « Enfant, obéisse à vos parents ». Mais quand tu désobéis, tu ne désobéis pas seulement aux parents, tu désobéis à Dieu. C'est le même principe. Si tu résistes aux autorités, mais tu résistes à Dieu. Même principe. Troisième raison, résister aux autorités, mais on risque d'en avoir des conséquences, on risque d'avoir une punition, un jugement. La fin du verset 2 nous dit « Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Vous savez, si à partir de demain matin, vous dites « Je ne paye plus mes taxes. Fini. Je ne paye plus mes taxes. Rapport d'impôt, rempli plus sur moi. Fini. TPS, TVQ, plus question. » Vous risquez fortement d'en subir des conséquences. Vous risquez fortement d'être puni par rapport à ça. Numéro 4, les gouvernements sont institués pour empêcher le mal. Verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. En général, si on fait le bien, on n'aura pas de problème. On n'aura rien à craindre. Ça me fait penser un peu quand, à mon travail comme chauffeur d'autobus, chaque autobus a un CB. Puis ça arrive à l'occasion qu'un des chauffeurs va dire « OK, faites attention, telle rue, il y a une police, il y a un radar. » Moi, c'est, je ne peux pas dire jamais, mais c'est très rare que je dépasse la limite. Fait que j'ai rien à craindre. Tu sais, je m'en vais, puis je la vois, la police, ça ne me dérange pas. Sur l'autoroute, c'est la même affaire, quand je m'en vais en voyage, je me le croise, puis je me sens à 112, 113. Jamais fait arrêter. Il y en a-tu qui sont déjà fait arrêter à 112, 113? Ils tolèrent ça. Je vois la police au loin. Pas stressé pantoute. Aucun stress. Raison numéro 5. Les gouvernements sont institués pour ton bien. Vous savez, il y a des lois, des fois, qu'on est plus ou moins d'accord, mais on pense juste des cellulaires au volant. C'est pour notre bien, en fin de compte, quand on y pense comme il faut. Là. Ça nous dérange, ça distrait. J'espère que vous ne le faites pas. C'est contre la loi. Là, prochainement, où ce n'est pas déjà fait, les piscines. Les piscines, maintenant, les nouvelles piscines qui vont être établies vont être obligées d'avoir une clôture. C'est pour votre bien, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être drôle de perdre un enfant qui se noie. C'est pour notre bien. Raison numéro 7. Gouvernement a le pouvoir, numéro 6, excusez. Le gouvernement a le pouvoir de punir. Dans la Bible français courant, j'aime bien la traduction au verset 4 de notre texte. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. Fait que si vous enfreignez la loi, oui, vous avez des fortes chances d'être puni. Et le dernier, le numéro 7, nous devons obéir par motif de conscience. Verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. On n'obéit pas juste parce qu'on a peur de subir la punition, mais aussi pour que, ben c'est le fun, avoir la conscience tranquille. Ça va bien. C'est plus relax. T'sais? Conscience tranquille. Quand on fait le bien, on n'est pas stressé. Christ nous donne des exemples. Rappelez-vous l'impôt dans le temple. Pour l'entretien du temple, une fois par année, il devait donner un tribut. Un impôt. Et puis, Jésus avait envoyé Pierre, on n'a pas le temps de le voir, là, mais vous irez le lire chez vous. Jésus a envoyé Pierre aller chercher l'argent dans un poisson pour aller payer justement cette taxe. Jésus, il a obéi à la loi. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vous connaissez le contexte. En disant ça, Dieu il dit, garde, paye l'impôt à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Le point central est que Dieu a mis en place des gouvernements et nous avons le devoir de nous soumettre. Nous avons le devoir de nous soumettre. Ensuite, il nous dit dans Tite chapitre 1 qu'il faut obéir. Il y a une restriction. Il y a une restriction comme quoi qu'on n'est pas obligé de toujours obéir aux autorités. C'est dans Actes, on va tourner, dans Actes. Non, je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. On va tourner. Actes, chapitre 4. Dans le contexte, c'est Pierre et Jean qui ont guéri un boiteux. Et puis, ils ont été mis en prison. Ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Et puis, là, ils sont devant le Sanhédrin. Puis, au verset 17, il dit, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Verset 18, « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Il disait aux apôtres, « Vous n'avez plus le droit de prêcher. Fini. Défendu. » Regardez la réponse de Pierre et Jean. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Un petit peu plus loin, chapitre 5, verset 40. Il y avait eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons faites par les apôtres. Au chapitre 5, verset 40, « Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. » Verset 42, « Et chaque jour, voyez-vous ici, ils ont désobéi, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Ils ont désobéi parce que c'était contraire à la parole de Dieu. Alors, c'est la seule restriction que si c'est contre la parole de Dieu, on doit obéir, on doit désobéir. Si demain matin, notre premier ministre annoncerait que tous les chrétiens du Québec n'ont plus le droit de lire la Bible, il faudrait refuser. C'est contre la parole de Dieu. Oui, on pourrait en subir des conséquences. Oui, on pourrait être mis en prison. On pourrait être mis même jusqu'à la mort. C'est le risque, mais c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, prêt à toute bonne œuvre. Paul nous demande... Non, être prêt à toute bonne œuvre. Le mot prêt ici, c'est intéressant, c'est... On peut le traduire par enthousiasme. Enthousiasme à toute bonne œuvre. Puis, c'est un amour sincère et enthousiaste pour servir les autres autour de nous. Puis, même les autorités. Même les autorités. On doit être enthousiaste à les servir. Galates 6, 9, 10 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous devrions être reconnus comme étant des personnes qui pratiquent de bonnes œuvres avec enthousiasme et amour. On devrait être reconnus comme étant comme cela. Deuxième point, rapidement, notre comportement envers tous. Verset 2. On retourne dans notre texte de titre. Verset 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur. Quatre obligations. On vient de les nommer. Regardons de ne médire de personne rapidement. Dans 1 Timothée 2. Chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On doit être des gens tranquilles, en paix avec les autres. Dignes d'être appelés des hommes et des femmes de Dieu. Notre influence devrait toujours, toujours tendre vers le bien. C'est quoi que devrait être notre attitude face au gouvernement? Que ce soit provincial, que ce soit... C'est quoi l'autre? Fédéral, municipal. Notre maire est un peu contestée de ce temps-ci. C'est quoi notre attitude? Regardez le texte dans... Verset 1, priez pour eux. Priez pour eux. Chialez pas après eux autres. Il faut prier pour eux. C'est ce que le texte nous dit ici. Faire des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Pourquoi? Verset 3, parce que c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis tous les hommes, ça inclut les autorités, ça inclut les gouvernements. Dieu veut les sauver. Il ne faut pas les injurier, puis il faut prier pour eux. Bénissez et ne maudissez pas. Il faut être pacifique, non querelleur. J'espère qu'on n'est pas caractérisé par ça, qu'on est des querelleurs, qu'on est agressif, qu'on recherche les disputes. J'espère que ce n'est pas notre cas. Il ne faut pas que ce soit notre cas. On devrait être plutôt des gens aimables, gentils, doux. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que je suis caractérisé par des conflits, des querelles ou des disputes? J'espère que non. J'espère que non. Modéré, qui vient du grec épiekès, qui veut dire équitable, juste, doux, gentil. Une attitude qui ne tient aucune rancune. Aucune rancune. Qui est très patient avec les pécheurs. Plein de douceur. Montrer de la gentillesse. Céder ses droits. C'est ça, être plein de douceur. Vrai, c'est une vraie humilité. Simon, le mari de Sabrina, il y a quelque temps, m'avait conté une blague qu'il avait trouvée bonne. Il dit, je suis un gars très humble. J'ai eu une médaille pour ça, une médaille d'humilité, puis je l'ai gardée pendant un mois accrochée à mon cou. C'est pas une vraie humilité, ça. C'est vraiment pas une vraie humilité. 2 Timothée 2, 24-26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Paul il dit ici à Timothée que si on vit comme cela, en étant doux, gentil, Dieu peut nous amener, nous utiliser à amener des gens au salut. L'exemple de Christ, la femme samaritaine. Vous savez qu'il n'y avait pas de relation avec les gens de Samarie à ce moment-là, les Juifs. Puis Jésus a usé de gentillesse, de bonté envers elle. La femme adultère qui était sur le point de se faire lapider, Dieu l'a gracié, Jésus l'a gracié, usé de bonté, de grâce envers elle. La question qu'on peut se poser, regardez ce que Matthieu dit, recevez de la part de Jésus, c'est Jésus qui parle, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. À qui s'appliquent les quatre obligations que l'on vient de voir? Fin du verset 2 nous dit, dans le titre, envers tous les hommes. Envers tous les hommes. Pourquoi tous les hommes? 1 Timothée 2, 4, on l'a lu tantôt. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est en train de dire aux croyants, vivez une vie comme je vous demande. Que les gens puissent voir votre attitude, que les gens puissent voir votre témoignage, qu'ils puissent voir la transformation que Jésus a fait en vous. Ceux qui ont entendu mon témoignage le savent, c'était comme ça moi aussi. Des chrétiens qui jouaient au hockey. T'en souviens-tu, Guy? T'étais là, Denis? Denis était là. Michel Bourque. Leurs témoignages m'ont touché. C'est ce qui m'a amené au Seigneur. C'est important, notre témoignage, les amis. Très important. Très important. Puis toi, il y a peut-être des gens ici qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Pour toi, Dieu veut que tu sois sauvé. Viens à lui. Viens à lui. En tant qu'enfant de Dieu, soumis aux autorités, obéissant aux lois que les gouvernements nous imposent, en étant bon envers les autres, sans être injurieux ni querelleur, mais plutôt patient et gentil, c'est à ce moment-là que notre témoignage peut transformer des vies, afin qu'ils puissent venir au salut par grâce. Notre témoignage et notre conduite sont tellement importants autour de nous. On nous regarde. Moi, je le vois presque à tous les jours dans l'autobus. Il y a des gens qui nous regardent, viennent me voir. Vous êtes un bon chauffeur, monsieur. Fait que si je fais une connerie ou deux, ils vont le voir aussi. Ils voient les bons côtés, mais ils peuvent voir les mauvais côtés. On nous regarde. Soyons un bon témoignage. Que le Seigneur nous aide à avoir une bonne attitude, même dans une société corrompue, même dans une société qui... Pas fort. Je vais laisser Doug. Je termine avec la prière. On va prier. Ah, Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu patient envers nous. Oui, Seigneur, on confesse que ça peut arriver des fois qu'on enfreigne les lois. que ce soit cellulaire au volant, ou que ce soit d'autres lois, Seigneur, que nos gouvernements nous donnent. On te demande pardon, Seigneur. Seigneur, on veut être un bon témoignage pour les gens du dehors qui nous voient. On veut, Seigneur, qu'au travers de nos vies, ils puissent, Seigneur, voir ton amour et puissent venir à la connaissance de la vérité, Seigneur, et puissent, Seigneur, t'accepter comme sauveur et Seigneur de leur vie. Seigneur, aide-nous à chaque jour de notre vie, à chaque endroit où ce que nous allons être, à vraiment être des gens qui sont doux, gentils, et des gens, Seigneur, qui vivent une vie pour toi en te glorifiant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.